Hello à toi et bienvenue sur le podcast La Joie de se lever. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast où se rencontrent transition professionnelle et transition écologique. Je m'appelle Juliette, je suis coach certifiée en transition professionnelle et facilitatrice du changement vivant. Ma mission ici est de te donner des pistes de réflexion, des clés, l'expérience et l'expertise d'autres femmes pour t'aider à te mettre en mouvement avec confiance et clarté et surtout réussir ta transition professionnelle de sens, alignée et durable. Tout cela en douceur, avec curiosité et plaisir. Retrouvons ensemble la joie de se lever. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Joie de se lever. J'espère que vous m'entendez bien, je suis dehors, vous entendrez peut-être un petit peu de vent ou de pluie aujourd'hui puisque c'est le temps d'aujourd'hui tout simplement. On se retrouve, et oui j'ai pas été beaucoup présente sur ce podcast, même pas du tout, parce qu'il s'est passé plein de choses au niveau pro et perso pour moi. J'en dirai un petit peu plus dans ce podcast puisque je me suis dit... Je vais revenir avec un épisode, on va dire un peu question-réponse, dans le sens où j'ai des questions qu'on me pose très régulièrement sur ma reconversion, sur comment j'ai fait, sur qu'est-ce que je fais concrètement aujourd'hui, etc. et comment j'en suis arrivée à devenir coach. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un épisode sur moi, ma vie, mon œuvre, et surtout sur mon parcours de reconversion, avec les questions que vous me posez le plus souvent. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes, et puis je vais répondre comme si c'était une interview, mais à moi-même, dans ce podcast. Pour commencer, on va faire simple, ma formation, mes expériences, et puis on va parler de ma dernière expérience salariale. Au niveau de ma formation, j'ai fait une licence de langues étrangères appliquées, qui n'était pas forcément mon premier choix. Moi, je voulais faire soit des études de cinéma, soit psycho, ce qui me rapprocherait aujourd'hui de mon métier, en tout cas en termes d'études. Mais j'étais pas très sûre de moi. Et puis, mes parents disaient qu'il n'y avait pas de débouché ni dans l'un, ni dans l'autre. Donc, j'ai écouté mes parents et je n'ai pas suivi ce que je voulais faire. Donc, j'ai eu une licence en LEA, plutôt pas très bonne. Puis après, j'ai un peu plus choisi mon cursus puisque je suis partie en master 1 marketing. Puis j'ai fait un master 2 en publicité, tout ce qui était audiovisuel, etc. Donc j'ai bien kiffé mon master 2. C'était vraiment quelque chose de chouette, découvrir la communication, voir les facilités aussi que j'avais à communiquer. Enfin voilà, c'est quelque chose qui était vraiment, capitalisé sur une de mes forces, justement, sur la communication, sur le beau, le visuel, les mots, etc. Et je suis devenue ensuite chargée de communication. Pour la faire courte, je vivais dans le Nord avant, donc j'ai fait les grandes boîtes du Nord en fringues, en agroalimentaire, j'ai fait de la banque aussi, toujours en chargée de communication, au début interne, donc plus sur la partie stratégie, culture d'entreprise, etc. Et puis ensuite sur l'externe, donc qui est ma dernière expérience salariale, où j'étais chargée de communication plus digitale au sein d'une institution, on va dire publique. Parce que juridiquement, elle est privée, mais c'est une mission de l'État, en fait. C'est une mission publique, tout simplement. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais si je devais résumer en une phrase ? Je suis coach en transition professionnelle et je fais donc des bilans de compétences au sein de Chance. Et je fais du coup depuis quelques mois de la VAE, validation des expériences chez Les Deux Rives. Donc ça, c'est tout nouveau. Et j'ai toujours mon entreprise WeOstara, avec laquelle j'accompagne des femmes qui sont plutôt ce que j'appelle éco-conscientes à transitionner professionnellement. Et aujourd'hui, je ne fais plus d'accompagnement de groupe. En tout cas, pour l'instant, c'est suspendu. Je fais quelques ateliers de temps en temps de groupe, mais plus l'accompagnement que vous avez pu entendre dans les précédents épisodes de podcast qui s'appelle Ostara Sense. Mais je continue l'accompagnement individuel, donc avec des personnes, soit qui reviennent me voir, soit des nouvelles personnes, avec un processus de coaching, on va dire, un peu plus classique, sur 10 séances, etc. Ce n'était pas du tout une seule phrase, mais bon, vous m'avez comprise. Je suis donc coach en transition professionnelle, pour la faire courte. Une question que vous me posez souvent, c'est comment tu as eu le courage de changer, de te reconvertir. Donc je sais pas trop si c'est réellement du courage, c'est vraiment plutôt que je pouvais plus continuer comme ça. Et c'était vraiment vital pour moi de faire autrement. C'est comme si j'avais plus le choix, j'avais vraiment atteint un point de non-retour. Et puis derrière cette question, il y a peut-être les éléments déclencheurs, en tout cas, qui m'ont fait changer. Et j'aimerais bien vous les partager parce que je me dis que ça peut, vous pouvez aussi vous reconnaître dedans. J'étais vraiment dans un mal-être au travail, dans mon dernier travail. Je suis restée 4 ans en CDI là-bas, en raison principalement du rapport hiérarchique. Qui était très pyramidal, avec du micromanagement, du management déresponsabilisant, voire parfois carrément infantilisant, pour que finalement, bah voilà, si y a une erreur, c'est de ta faute ou ta responsabilité. Donc, il n'y avait vraiment pas le droit à l'erreur, ou alors fallait le cacher sous le tapis, plutôt que de s'en servir pour améliorer les choses. Enfin, il y avait vraiment ce rapport de subordination, rapport hiérarchique très très fort dans cette entreprise que j'avais jamais connu à ce point-là ailleurs et qui vraiment, j'étais pas du tout adaptée à ça. Je sais qu'il y a des personnes qui ont justement besoin de ça. Moi, c'est tout l'inverse. C'est pour ça que je suis à mon compte aujourd'hui, je pense. Mais voilà, du coup, ne pas avoir du sens dans mes actions, qu'on me demande de faire des choses du jour au lendemain, voire même pour la veille. Sans me mettre un sens derrière, c'était vraiment quelque chose. Enfin, au bout d'un moment, j'ai plus réussi à travailler, quoi, vraiment. Et j'ai fini par adopter la tactique du oui-oui et de ne rien faire derrière, parce qu'en fait, je pouvais plus ni me mettre en opposition, j'avais plus la force, et dire non parce que ta-ta-ta, ou alors d'accord, mais à telle condition. J'avais plus la force de ça, j'avais juste la force de rien du tout. Donc voilà. Il y avait aussi, c'est une institution sociale, enfin voilà, à mission publique, et du coup, les process de décision étaient très longs, encore une fois, pas trop de sens. Il y avait un grand immobilisme dû au système, en fait, hein, de à la fois l'organisation du travail, mais aussi l'organisation avec les autres institutions, on va dire, publiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi que j'avais pas forcément connu dans mes précédentes grosses boîtes, on va dire un peu à, peut-être pas à l'américaine, mais en tout cas où c'était beaucoup plus fluide, où c'est même pas l'argent qui posait problème, c'était vraiment la prise de décision et le rapport entre les gens, en fait, et le rapport de hiérarchique. Donc heureusement, j'ai su trouver évidemment des collègues avec qui ça marchait bien, c'est ça qui m'a fait rester aussi longtemps. Mais pour répondre à la question, du coup, j'ai vraiment eu plein de déclics multiples. Au début, c'était vraiment des maux de dos. Je me suis aussi bloqué la mâchoire une fois. J'avais mal au ventre aussi tous les jours, vraiment tous les jours. Et j'ai fait plein d'examens. On voyait, enfin, il n'y avait rien en fait de spécial. Donc je pense que c'était psychosomatique. Et puis, je me suis mise, au bout de quelques temps, à critiquer beaucoup. Enfin, j'aimais vraiment pas cette version de moi qui, au café du matin, lâchait un peu tout ce qui allait pas et toujours répéter la même chose. J'ai l'impression de tourner en boucle, en fait, dans ce truc. Et à un moment donné, je me suis dit, non, mais en fait, je me reconnais plus. Je suis pas du tout quelqu'un de critique à la base. Je suis plutôt bienveillante avec les personnes et là je le devenais pas du tout, au contraire, et donc j'avais voilà juste envie de plus être cette personne-là, et pour ça j'avais besoin de, à mon sens, changer d'environnement, donc changer la situation. C'est important pour moi de vous partager tout ça parce que tout ce que je viens de citer, le management déresponsabilisant, le rapport de subordination, le paraître aussi au travail, le présentéisme, la hiérarchie, le travail en silo, les dynamiques individuelles. Tout ça, c'est des éléments qui contribuent au mal-être au travail de façon générale et dans plein plein d'entreprises, de manière universelle, quoi. Donc ça peut permettre aussi de mettre des mots sur ce que vous ressentez, peut-être vous aujourd'hui. Comment s'est passée ta reconversion? Alors, en gros, il y a eu un gros déclic. J'étais en vacances et c'était la première fois que je méditais en face d'une montagne en Crète. Vraiment avec petit bambou, petite sponso, pas du tout rémunérée, mais que j'adore cette appli et je l'utilise du coup depuis 4-5 ans maintenant que je me suis reconvertie. Et en fait, avec cette première méditation, j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps et je me suis dit, ok, là c'est sûr et certain, faut que tu changes. Voilà, pour répondre à la question précédente, comment j'ai eu le courage de changer et comment ça s'est passé? Bah du coup, je connaissais pas trop les bilans de compétences à l'époque où j'avais des personnes qui en avaient fait, j'étais pas très convaincue selon les organismes et tout ça, donc je me suis dit, je vais me débrouiller par moi-même, ce que je fais souvent d'ailleurs en autodidacte. Et donc j'ai écouté beaucoup de podcasts de développement personnel, de transition professionnelle, de transition écologique. Ma conscience écologique, elle se réveillait vraiment aussi à ce moment-là, hein, avec des fresques du climat. J'ai fait partie d'un collectif climat, etc. Et donc petit à petit, j'avais vraiment envie de que ça fasse partie aussi de ma reconversion. Voilà, j'ai mis un an quand même à réfléchir, à me poser les questions qu'en bilan de compétences, on se pose en fait en 3 mois. Hein. Donc je pense que j'aurais été bien plus vite accompagnée. Mais bon, voilà, à l'époque, c'est fait comme ça et puis c'est tout. Et j'avais pas vraiment un projet professionnel très défini, mais j'ai commencé par faire des formations. Donc en 2020, j'ai fait une formation de coach à LinkUp Coaching et une formation aussi de facilitation au changement vivant avec Lara Mangoubert sur Lyon. Et j'ai commencé aussi à me faire accompagner par la BGE sur tout ce qui était gestion d'entreprise, etc. Parce que je savais que je voulais me lancer à mon compte. Ça, c'est quelque chose qui était quasi sûr depuis le début. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire et j'avais vraiment envie de tester ça, de me lancer dans ma propre entreprise, etc. Donc j'ai un peu tout lancé en même temps. Heureusement, pour moi, il y a eu les confinements, ce qui fait que j'ai pu continuer à travailler et à faire mes formations en même temps. Ce qui était beaucoup, beaucoup de travail. Je pense que deux formations plus un travail, je m'étais mise la barre un peu haut quand même. Après mes formations, j'ai demandé une rupture conventionnelle pour me lancer à mon compte en tant que coach. Donc ça, c'était en août 2020. Et j'ai commencé un accompagnement business, enfin business ou un accompagnement en tout cas à la création d'entreprise, mais entreprise on va dire responsable, avec ma mentor business Solène de Creators for Good. Au début, pour garder le chômage et pouvoir quand même utiliser ben, mon chiffre d'affaires pour réinvestir tout de suite dans la société, en fait, j'ai fait partie d'une coopérative d'activité en contrat CAP. Voilà, donc ça peut toujours donner des nouvelles idées aussi de statut parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu. Et pour moi, c'était important aussi de participer à un projet de société et je trouve que la coopérative d'activité, ça permet ça. Aujourd'hui, je suis en micro-entreprise depuis septembre 2022 parce que ben, j'ai plus de chômage depuis ce moment-là. Enfin, quasi plus. J'ai changé de statut à ce moment-là parce que ça me permettait d'avoir plus de, enfin, moins de charges. Et globalement, j'ai eu mes premières clientes en juin 2021 parce que quand j'ai terminé mon CDI et puis mes formations, en fait, j'étais crevée. J'étais en burn-in que j'ai mis un bon mois à m'en remettre déjà et puis 4 mois vraiment, 4-5 mois à retrouver mon énergie et on va dire un an à retrouver ma full énergie, quoi. Ça, c'est une question que vous m'avez posée souvent aussi. Est-ce que tu étais prête grâce à tes formations ou aurais-tu eu besoin d'une autre préparation ou expérience? Oui, je me sentais prête grâce à ma formation de coach, puisqu'on a dans la formation de la pratique, on accompagne 4 à 6 personnes sur 10 séances. Donc, du coup, voilà, j'ai fait à peu près. Moi, j'avais 5 personnes, donc j'ai pas fait 10 séances pour tout le monde, mais en gros, j'étais à peu près à 45 heures, quoi. Donc, je me sentais assez prête et puis c'était assez vite fluide pour moi en séance de coaching. C'est là aussi où j'ai senti que c'était juste pour moi, que j'étais vraiment au bon endroit. Je sentais que l'accompagnement humain, c'était vraiment là où j'étais douée, quoi. Enfin, même si aujourd'hui, quand je regarde avant, je me dis, ah ouais, il me manquait quand même plein, plein de compétences et il m'en manque encore probablement plein. Mais je sentais que c'était juste pour moi, quoi. Donc du coup, je me sentais assez prête. Pour la formation de facilitatrice, oui et non. J'étais déjà animatrice, en fait, avant, quand j'étais chargée de com, puisque j'avais fait une formation d'animation en réunion, des choses comme ça, de brainstorming, d'intelligence collective. Donc, je savais animer des groupes. Mais j'avais pas encore ma couleur, on va dire, de facilitatrice. J'avais pas non plus de projet. Donc oui, je me sentais prête à animer un groupe et à faciliter un groupe, mais pas forcément sur un projet à long terme à cette époque-là, en tout cas. Aujourd'hui, c'est le cas puisque avec le groupe Ostarasen, j'ai quand même fait des ateliers chaque mois avec elle pendant un an et demi. Donc voilà. Et puis, ce que je rajouterais par rapport à cette question, c'est important de continuer à se former tous les ans, même si c'est une petite formation d'un jour ou deux, parce que ça nous permet toujours de remettre en question notre posture, surtout en tant que coach, en tant qu'accompagnateur, accompagnante de l'humain. Et là, par exemple, cette année, je fais une formation du coup pour accompagner à la VAE, validation des acquis, des expériences, et ça me remet dedans du coup sur comment accompagner la montée en compétences, qu'est-ce que c'est une compétence. Donc dans ces métiers-là, comme plein d'autres métiers, je pense c'est bien de se former un petit peu tous les ans avec différents outils, différentes formations qu'on peut rajouter à notre arc-en-ciel ou à notre comment on dit? C'est quoi l'expression déjà? Rajouter des cordes à notre arc. Voilà, pas du tout à notre arc-en-ciel d'ailleurs. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ton quotidien d'entrepreneur ou de coach? En tant qu'entrepreneur, c'est bien simple. Il y a tout le temps des remises en question. On est son propre chef, donc on est les seuls à prendre la décision, les décisions. Et donc forcément, c'est pas facile. C'est pas une évidence. Les décisions, elles sont pas toujours évidentes. Donc forcément, parfois, faut simplement laisser le temps au temps de prendre ses décisions. Parfois, faut prendre rapidement une décision, mais on n'est pas sûr que ce soit la bonne. C'est comme ça, c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Et parfois, on va se tromper et parfois, on va pas se tromper. C'est le plus difficile, je dirais, c'est la capacité à prendre les bonnes décisions, ou en tout cas, à être OK avec le fait de pas prendre les bonnes décisions parfois. Et puis bon, il s'avère toujours que finalement, on a toujours un apprentissage derrière, quoi qu'il se passe. Et puis, je dirais que voilà, tous les 3 mois à peu près, pour moi, c'est une remise en question de mon business, de qu'est-ce que je fais, de est-ce que j'accompagne bien les gens. Enfin voilà, tous les 3 mois, il y a quand même une grosse remise en question que je commence à accepter, mais qui, j'avoue, c'est un peu... C'est un peu émotionnel à chaque fois, surtout si les chiffres ne suivent pas, s'il n'y a pas de CA, alors que ben, je sais pas, j'ai bien suivi tous les conseils de tous les coachs business ou j'ai investi sur moi, etc., et que ça ne fonctionne pas quand même. Là, j'avoue, bah, c'est pour ça qu'en janvier, là, j'ai eu un gros coup de mou où je me suis dit, ok, là, tu n'as plus de CA qui rentre. Il n'y a rien qui se profile à l'horizon de viable en tout cas. Enfin, il y avait une chose, mais il m'en fallait une autre. Et pour pas mettre les deux dans le même panier. C'est aussi dans ces moments-là qu'on va aller chercher très loin dans nos ressources et qu'on va aller oser faire plein de choses qu'on n'aurait pas osé autrement parce que il le faut. Et donc là, c'est dans ces moments-là aussi un peu de dureté, d'âpreté qu'on va aller chercher plus loin. Et qu'on va sortir un petit peu de la bonne élève, enfin que je vais sortir de la bonne élève qui applique tous les conseils. Et c'est là où on va aller chercher ce qui fonctionne pour soi. Voilà ce qui est le plus dur pour moi au quotidien et voilà la solution que j'y apporte, c'est vraiment expérimenter des choses pour trouver ce qui est le plus juste à chaque fois pour soi, quoi. Et ça, évidemment, c'est the conseil quand t'es en reconversion, c'est tester, expérimenter et voir ce qui est le plus juste pour toi. En fait, dans la vie, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Dans mon métier, ce que je préfère, c'est évidemment les séances avec mes coachés. J'adore les voir évoluer, j'adore suivre leurs aventures, j'adore voir leur vision changer sur quelque chose débloqué. J'aime bien aussi, même quand ça bloque, parce que moi, ça me challenge à aller chercher des nouvelles choses, des nouveaux outils, des nouvelles questions. Ça me challenge à aborder les choses d'une autre manière selon la personne, etc. Donc c'est vraiment les séances, ça me booste à fond. Ce que j'adore aussi, c'est créer des ateliers pour un groupe. Là, par exemple, j'ai une demande d'une université pour des étudiants de dernière année qui partent en stage de fin d'études. On m'a dit voilà en gros le topo, qu'est-ce que tu pourrais proposer? Bim bam boum, je crée un nouvel atelier pour eux. Donc ça, c'est des choses que j'adore faire. Et aussi, évidemment, voir le résultat quand je reçois un message, c'est bon, j'ai décroché le job, trop bien, ou alors que la personne n'a pas encore trouvé, mais qu'elle est vachement confiante sur le chemin. Enfin, c'est pour moi, c'est vraiment des victoires, c'est vraiment un plaisir de vous suivre. J'ai même j'allais dire une copine, parce que oui, c'est une copine coachée maintenant, qui s'est fait tatouer ce qu'elle avait vécu en séance, parce que je l'avais guidée pour ressentir la puissance, et elle l'avait tellement ressenti, c'était tellement puissant pour elle qu'elle se l'est fait tatouer après. Enfin, c'est incroyable et c'est aussi pour ça que je fais ça. C'est quand je vois le résultat chez vous, ça me galvanise. Je me dis, ok, je suis à la bonne place, je fais pas tout ça pour rien. Et forcément, avoir les retours, c'est hyper gratifiant, quoi. Grande, grande, grande question ici, c'est est-ce que tu vis de ton activité? Alors, aujourd'hui, juillet 2023, oui, j'en vis. Pour la première fois, je me paye le salaire que j'avais imaginé du début, c'est-à-dire un 2000 euros de CA brut, soit 1500 euros net à peu près de salaire. Donc oui, aujourd'hui, en juillet 2023, je peux dire que je commence seulement à en vivre. Ça aura mis vraiment 3 ans en tout, puisque j'ai quitté mon job en août 2020 et j'ai mes premières clientes en juin 2021. Après, c'est mon expérience à moi. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens pour qui ça va aller beaucoup plus vite. Il y a des gens pour qui ça n'arrivera pas non plus. Moi, sachant que les situations ont beaucoup changé, j'ai déménagé, donc du coup j'ai dû refaire un réseau. J'ai choisi de d'abord faire du particulier à particulier, ce qui est du coup prend un peu plus de temps en termes de chiffre d'affaires puisque c'est payé moins cher et puis c'est beaucoup plus. Enfin, la décision, elle est peut-être plus courte qu'avec une entreprise, mais c'est des montants moins importants aussi. C'est aussi, il faut aller chercher la confiance des personnes, donc il faut avoir déjà des premières et des premiers clients pour établir cette confiance-là, cette légitimité-là, on va dire, en plus de la certification de coach. J'ai pas réussi à lancer de communication tout de suite parce que j'avais un gros blocage. Il fallait vraiment que je travaille sur moi pour lancer ça. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont fait que ça a retardé. Et aujourd'hui, en tout cas, j'ai entre 2 et 4 sources de revenus, puisque j'ai 2 contrats de prestation, moi en tant qu'accompagnatrice, des prestations qui sont permanentes en bilan de compétences et en VAE, et j'ai quelques accompagnements individuels avec mon entreprise, et j'ai aussi des journées d'atelier ponctuelles avec soit les étudiants, soit d'autres publics où je fais ça ponctuellement. Est-ce qu'il faut absolument avoir un diplôme pour être coach? Alors, officiellement, juridiquement, non. On peut se déclarer coach sans certification. Personnellement, je conseille d'avoir évidemment une certification pour vraiment comprendre tout ce qui est lié à la déontologie et à l'éthique de l'accompagnement humain. C'est-à-dire, on va quand même avoir un espèce de rapport d'influence avec les personnes, de fait, puisqu'on est coach et ce sont les coachés comme un enseignant a un rapport d'influence avec ses élèves ou un psy avec ses patients. Du coup, faut être au fait de ce rapport-là et puis de la déontologie qui va avec, parce que l'accompagnement humain, bah, c'est aussi de la santé mentale et on peut pas faire n'importe quoi avec la santé mentale. Donc pour moi, c'est hyper hyper important d'être le plus consciente de ça, le plus formée à ça aussi. Et du coup, pour moi, la certification de coach sert surtout à ça, à capter en fait la relation qui se joue. Parce que les outils de coaching, blablabla, enfin ça, il y en a par milliers, il y en a dans tous les bouquins de développement personnel. Mais vraiment, cette déontologie-là, elle est indispensable. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui accompagnent les autres qui en font parfois fi. J'ai vu beaucoup de coaching sauvage, de psy, enfin thérapie sauvage dans des groupes. Pour moi, c'est très grave. Il y a des personnes en souffrance psychologique et on peut pas adapter parfois des méthodes de la psychologie positive, on peut pas adapter des méthodes de la PNL, on peut pas adapter des méthodes de coaching, on peut pas adapter certains outils à des gens qui ne enfin, sont en dépression ou font un burn-out, etc. Ce n'est pas possible, en fait, physiologiquement et mentalement, c'est pas possible. Donc, vraiment, c'est important d'être au courant de ça et je pense que ben, il faut passer par la certification pour ça. Et au moins par la supervision dans son quotidien de coach aussi, être supervisé par les autres. Est-ce que tu sens qu'il y a des aspects de ton travail avec lesquels tu es en dissonance cognitive? Ou as-tu trouvé le job qui te fait vibrer, qui te permet d'allier utilité, sens, cause et aussi bien-être, confort, sécurité financière, et pour lequel tu as envie de te lever tous les matins et tu te lèves tous les matins avec joie? Merci beaucoup pour cette question. Elle est très vaste, donc je vais essayer d'y répondre de manière concise. oui, il y a un aspect de mon travail avec lequel je suis en dissonance, ou en tout cas, j'ai pas encore trouvé forcément de réponse. Je sais pas s'il y en a une de toute façon, mais ça fait partie du travail de réflexion sur tout ce qui est développement personnel, coaching, etc. Forcément. Je me pose des questions par rapport au fait que ça vienne du monde quand même du capitalisme. À la base, c'était fait pour la performance des humains et des entreprises et des humains dans les entreprises. Ça a été conçu comme ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus large que ça, mais aussi c'est un sujet sur lequel il y a des dérives, évidemment, comme j'ai envie de dire tous les sujets. Et donc, le sujet du bien-être, comme plein de choses, doit être aussi politique. Pour cela, je renvoie à Politiser le bien-être, qui est un ouvrage là-dessus. Mais en tout cas, c'est vraiment ouais, une question que je me pose régulièrement c'est un métier que je questionne beaucoup et des méthodes que je questionne beaucoup aussi à chaque fois. Tant que ça n'entrave pas la liberté, le libre arbitre, la responsabilité, l'autonomie de l'autre personne, et que moi je le fais dans une intention de bénéfice pour l'autre personne ou d'intention même pour moi-même de faire bouger les choses. J'entends par là la transition écologique. Forcément, accompagner ce changement, c'est quelque chose qui est politique. Et donc forcément, les accompagnements que je fais vont transmettre ce genre de vision, qui est du coup un petit peu à l'encontre de la vision initiale du coaching, si on prend, je sais pas, des Tony Robbins ou des choses comme ça, où on est très capitaliste. C'est à l'américaine, après, voilà, on a une culture très différente, mais ou Brooke Castillo, voilà, c'est très à l'américaine, voilà, capitaliste, patriarcale, dans la performance, etc. Ce qui est pas trop ma vision. Et donc, voilà, c'est là où je peux parfois être un peu en dissonance avec les outils que j'utilise, mais du coup, j'essaie de toujours m'interroger dessus, et puis on apprend hein, toujours, donc j'ai fait des erreurs évidemment, et puis j'apprends tout au long de ma pratique, comme tous les métiers. Et pour répondre à la question de est-ce que j'ai trouvé ce qui me faisait vibrer, alors oui, vraiment je me sens hyper bien en séance, j'ai toujours hâte de retrouver mes coachés en séance, même ceux avec qui je sais que ça va être un moment difficile parce qu'ils ont un blocage ou des choses comme ça. Au contraire, enfin vraiment, pour moi, c'est un plaisir à chaque fois de vous retrouver en séance. Donc oui, ça me fait très plaisir. Évidemment, il y a des matins où je suis fatiguée, j'ai pas forcément envie de me lever, mais en tout cas, je suis toujours contente de faire ce que je fais et à chaque fois que je me plonge dedans, enfin pour moi, c'est vraiment passionnant. J'y vois évidemment du sens, de l'utilité. Pour moi, je contribue à des causes qui sont hyper importantes, de bien-être au travail, de bien-être tout court, de bien-être, enfin de santé mentale, très légèrement et ponctuellement, de transition écologique. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai une certaine sécurité financière qui n'est pas encore tout à fait installée, mais du coup, qui me convient en tout cas pour l'instant. Donc oui, j'ai trouvé ce travail qui permet d'allier tout ça, mais je me rends compte en disant ça que cet équilibre pro-perso, peu importe le métier en réalité, hein, peu importe ce que vous faites, c'est vraiment un dosage à trouver et à réajuster tout le temps. En fait, je pense qu'il faut vraiment mieux savoir et identifier quand on se sent pas aligné ou équilibré, et savoir apprendre à se rééquilibrer plutôt que d'essayer de trouver l'alignement et l'équilibre une bonne fois pour toutes, trouver le job idéal une bonne fois pour toutes, etc. Parce que la vie, ça change, la vie, c'est vivant, et donc forcément, ça évolue tout le temps. Et pour ça, je renvoie au premier épisode de ce podcast sur la roue du changement. Pour moi, on enchaîne les roues de changement tout le temps, tout au long de sa vie. Et donc, c'est bien plus important pour moi, dans sa vie pro, dans une transition, dans la vie en général, de savoir identifier quand on n'est plus aligné avec ce qu'on est en train de faire et d'apprendre à rééquilibrer tout ça et de savoir équilibrer tout ça au bout d'un moment, bien sûr, puisque à chaque fois qu'on l'apprend, c'est bien intégré. De trouver ça à chaque fois. Je prends l'exemple, moi en début d'année, j'ai essayé de retrouver un job salarié parce qu'en fait j'étais hyper fatiguée de devoir tout le temps communiquer sur les réseaux sociaux. Franchement, j'en avais trop marre des réseaux sociaux. J'avais vraiment envie de faire un break avec tout ça. J'étais fatiguée de devoir chercher tout le temps des nouvelles clientes, etc. Et puis que ça décolle pas en fait, hein, de voir que c'est pas pour autant que j'en trouvais ou c'est pas pour autant que mon CA décollait. Et j'avais des projets perso qui me demandaient, enfin qui allaient me demander en tout cas plus d'argent, tout simplement. Et j'avais envie aussi de retrouver une équipe, quoi. J'avais envie de retrouver des personnes. Je commençais à me sentir seule un peu dans cette recherche permanente de clients et de clientes. Et finalement, en cherchant un nouveau job, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes dans ma nouvelle ville parce que j'habite à Nantes maintenant depuis un an. Et c'est comme ça que j'ai eu vent d'une autre boîte qui recherchait des accompagnantes, etc., de manière permanente, et je me suis dit, ah, nickel, ça me ferait deux contrats de prestation, ce serait parfait, contrat de prestation permanent. Et puis, finalement, mes projets perso ont abouti assez rapidement, plus vite que pro. Donc, finalement, tout s'est équilibré comme ça. Et j'ai lancé des perches à droite, à gauche. Et puis, en rencontrant des personnes, ils m'ont dit, mais on cherche des gens comme toi pour faire ceci, cela, et blablabla. Et donc, j'ai eu deux autres contrats comme ça. Donc, trois contrats en tout. Juste en me disant, OK, en fait, là, je commence à avoir besoin de changer, de retrouver un emploi stable avec un salaire stable. Et au final, ce que j'ai trouvé, c'est une autre méthode pour aller chercher des contrats qui a été beaucoup plus rapide finalement que ce que j'avais mis en place depuis 2 ans. Tout ça pour dire que c'est important de savoir identifier ses besoins. qu'ils soient pro et perso, et d'y répondre, d'agir en fonction de ses besoins et d'avoir confiance en l'avenir, confiance que ça va se décanter en fait, et que on trouvera toujours des choses qui nous conviennent. Et si ça nous convient plus au bout d'un moment, au bout d'un mois, 3 mois, 1 an, 5 ans, peu importe, et ben on sera capable de rechercher d'autres choses et d'ajuster de nouveau et de trouver un nouvel équilibre. Donc voilà, c'est sur ça que je vais conclure que il faut savoir identifier vraiment ses besoins et savoir agir en fonction et les nourrir en fonction, parce que c'est comme ça que qu'il se passe plein de choses, et c'est comme ça que du coup moi j'ai rencontré plein de personnes, et finalement même si c'est pas une équipe aujourd'hui dans laquelle je travaille, j'ai des contacts tous les jours avec des personnes qui font le même métier que moi quoi, et ça pour moi c'était hyper important. Donc je vais conclure ici, j'espère que cet épisode vous aura éclairé, donné des idées ou donné envie d'entamer vous aussi des recherches et des autres ajustements pour votre reconversion, transition professionnelle ou simplement le métier de coach que vous envisagez ou d'accompagnatrice ou peu importe. Et je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Petit update avant de clôturer cet épisode, car entre le moment où je l'ai enregistré et le moment où je le poste aujourd'hui, eh bien il y a eu encore eu des changements dans ma vie. C'était les projets perso dont je vous parlais dans l'épisode. Donc j'ai de nouveau déménagé, cette fois-ci dans la campagne entre Rennes et Nantes, pour démarrer un projet de vie en presque autonomie à terme. Et je peux aussi vous annoncer officiellement ma grossesse puisque je rentre dans mon 3e trimestre. C'est pour ça que j'avais aussi envie de vous partager que je me suis décidée à ne pas décider d'un rythme de publication des épisodes de ce podcast pour l'instant, et de poster plutôt au fil de l'eau pour respecter mon rythme et mon énergie pendant ma grossesse. Donc abonnez-vous pour être averti des nouveaux épisodes, et je m'arrête là et je vous remercie pour votre écoute. Belle journée. Tu viens d'écouter un épisode du podcast La Joie de se lever et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne louper aucun épisode et n'hésite pas à me laisser plein d'étoiles dans les yeux et surtout sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast. C'est un petit geste mais qui apporte un énorme soutien. Tu peux aussi me retrouver en MP sur Insta ou sur LinkedIn ou sur le site WeOstara. J'échange toujours avec grand plaisir. Merci d'ailleurs aux personnes qui ont déjà fait ce premier pas depuis le début de ce podcast. Je te retrouve donc au prochain épisode. En attendant, respire, écoute les messages de ton corps et de ton cœur et mets-toi en mouvement avec curiosité et bienveillance envers toi-même. Merci beaucoup pour ton écoute et je te souhaite une très belle journée.